Mutu Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur notre podcast. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans ce contexte que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Yacine Ndomani, qui est intervenu pour une conférence Mutualité, Santé et Pouvoir d'Agir à Aix-Marseille Université. Bonjour Yacine.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer le parcours qui vous a mené à rejoindre l'association Banlieue Santé ?
Alors merci beaucoup pour l'invitation déjà et bravo pour ce que fait l'Institut Montparnasse pour la santé et pour les mutuelles. Moi c'est Yacine, du coup je suis le directeur de l'association Banlieue Santé. Je suis infirmier de formation, j'ai travaillé 13 ans comme infirmier en Seine-Saint-Denis d'abord. Et j'ai aussi un master en droit de la santé, donc je suis plutôt spécialisé sur les questions de droit de la santé et d'inégalité d'accès au droit de la santé. Banlieue Santé, on l'a créé avec Abdelali, le président, pour proposer une nouvelle réponse. En fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de différent à amener pour répondre à ce problème qu'on a d'écart d'espérance de vie entre riches et pauvres dans les banlieues. On entend banlieue pas uniquement comme QPV, mais aussi étymologiquement comme les lieux bannis, les lieux desquels la santé est bannie.
Est-ce que vous pouvez nous présenter Banlieue Santé et ses missions principales ?
Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est déjà d'avoir une approche de la santé qui soit holistique. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychologique et social. Ce n'est pas juste l'absence d'infirmité ou de maladie. Donc à partir de là, on va essayer de travailler sur cette santé-là et prêter attention à tout ce qu'on va appeler les déterminants sociaux de santé qui vont créer les inégalités de santé ou qui vont permettre à une personne d'être en bonne santé. Donc on va s'intéresser aux déterminants sociaux de santé parce que la santé, c'est ce que je mange, c'est l'activité physique que je pratique, c'est les gens que je rencontre dans mon quotidien, c'est l'offre de soins sur mon territoire, c'est bien sûr ma complémentaire santé, mon niveau de revenu et encore tout un tas de choses qui fait la santé des gens. Sur nos missions, on va essayer d'augmenter le niveau de littératie en santé. Qu'est-ce que c'est la littératie en santé ? En fait, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à 1. Accéder à l'information, 2. La comprendre, 3. L'évaluer et enfin la mettre en pratique dans son quotidien. Donc on va essayer d'amener de l'information en santé à des populations et des publics qui en sont en premier lieu éloignés.
Vous êtes intervenu donc dans une conférence qui s'appelle « Mutualité, santé et pouvoir d'agir ». Donc quel est votre regard sur le mutualisme ?
Pour nous, c'est une des premières organisations qui s'est constituée pour se prémunir collectivement des risques de la vie. Il y a plein de formes qui existent et le mutualisme en est une. Pour revenir à une définition simple, c'est des gens qui ont décidé de s'entendre et de s'organiser pour améliorer leur vie au quotidien ensemble, avec un gros ensemble.
Vous avez parlé de la lutte contre les inégalités sociales de santé un petit peu avant. Je voulais savoir comment vous percevez le rôle des mutuelles aujourd'hui dans la lutte contre ces inégalités sociales.
Alors, au-delà du remboursement de la consommation de soins ou de ce que l'on connaît traditionnellement dans le rôle des mutuelles, aujourd'hui, la place des mutuelles est aussi un acteur du changement, de porter des approches nouvelles pour favoriser la santé des individus. Ça peut passer aussi par y a des appels à projets, il y a aussi le financement n'est pas le seul prisme par lequel on considère les mutuelles. Nous, on a fait des ateliers, des tables rondes avec des mutuelles sur des sujets comme l'isolement des personnes âgées. Et on a aussi construit des modules de formation et la mutualité française nous a, pour l'anecdote, mobilisé des professionnels de santé pour nous aider à réaliser des vidéos qui expliquent comment mieux manger pour sa santé au quotidien.
Sur le volet des inégalités sociales de santé, j'aimerais savoir de votre hauteur à Banlieue Santé, quels sont pour vous les principaux déterminants sociaux de santé qui renforcent les inégalités aujourd'hui ?
Ils sont multiples, ils sont hétérogènes. Selon les territoires, selon les individus, ils vont avoir une importance plus ou moins élevée. Bien sûr, le niveau économique. Mais parfois, on peut avoir de l'argent, mais ne pas s'occuper de sa santé parce qu'on travaille trop, parce qu'on a d'autres problématiques. Bien sûr, la question de l'offre de soins. Si on n'a pas d'offre de soins à proximité, mais on sait aussi par expérience sur le terrain qu'il y a beau avoir un hôpital en face de la maison ou un centre de santé, les gens ne franchissent pas forcément le cap de l'accès aux soins. Donc, bien sûr, on peut les citer, le niveau économique, la capacité à comprendre l'information en santé, le niveau culturel, la barrière de la langue, l'offre de soins, les carrières qu'on a exercées, qui peuvent elles-mêmes générer des pathologies. Mais je resterai quand même relatif et attentif à leur importance en fonction des territoires et des personnes, d'où les démarches participatives que l'on porte à Banlieue Santé.
Quelles initiatives justement menées par Banlieue Santé vous semblent plus efficaces pour réduire ces inégalités ?
Je dirais qu'on ne remplacera jamais quelqu'un qui a décidé de se saisir de sa santé. Et pour se saisir de sa santé, aller consulter, pratiquer une activité physique, réactualiser ses droits, se mettre en marche dans le parcours de soins, c'est la chose la plus impactante et la plus efficace. C'est quand les gens s'occupent de leur santé. Et pour nous, c'est là qu'il faut agir. Et un grand nombre de pathologies peuvent être détectées, évitées à partir de l'adoption de comportements favorables en santé. Voilà, c'est ici qu'on va se situer, c'est ici qu'on va essayer de travailler sur l'autonomisation, en tout cas le meilleur niveau d'information en santé, comme je le disais au début.
Alors nous, il y a une initiative qui nous a bien plu durant la conférence, c'est celle de Plus belle la vue. Est-ce que vous pouvez nous en reparler et puis les retombées sur les bénéficiaires de Banlieue Santé dans leur parcours de soins ?
En quelques mots, l'initiative Plus belle la vue, elle existe depuis 2019 à Banlieue Santé. Donc nous proposons à destination de publics qui sont en rupture de droit, qui n'ont pas de mutuelle justement, ou pas d'accès à des couvertures santé, de bénéficier d'une consultation ophtalmologique gratuite et d'une paire de lunettes à leur vue lorsqu'il y a un déficit visuel. Ça, on le fait à Paris et à Marseille. À Marseille, on le fait avec une unité mobile. À Paris, on le fait avec la Fondation Rothschild et la Fondation OneSide Essilor Luxottica qui nous fournit gracieusement les lunettes. Ce qui est intéressant dans cette histoire de Plus belle la vue, c'est qu'en fait, la renonciation aux soins ophtalmo est très importante. C'est l'une des premières causes de renonciation aux soins avec le dentaire, même si, à mon sens, elle est même supérieure puisque on s'accommode, c'est le cas de le dire, plus facilement d'une mauvaise vue que d'une douleur dentaire. Toutefois, cette inégalité, elle a plein de facteurs, c'est-à-dire qu'il faut une couverture sociale, la peur d'avancer les frais, les délais de rendez-vous avec l'ophtalmologue, la présence même d'un ophtalmologue. Et ensuite, il faut aller chez l'opticien, la peur encore une fois de débourser de l'argent qu'on n'a pas. Plus globalement, les gens ont aussi beaucoup de problématiques sociales. Donc en fait, on va s'atteler à s'occuper du frigo, du loyer, des factures, des urgences du quotidien et reléguer toujours à plus tard, toujours à plus tard, toujours à plus tard cette histoire de déficit visuel. Donc nous, ce qu'on propose, c'est on travaille avec beaucoup d'associations du terrain, des petites associations, majoritairement des partenaires associatifs qui n'ont pas forcément une grande couverture territoriale, qui n'ont pas forcément de salariés, mais qui ont une fine connaissance des habitants d'un quartier ou d'une petite échelle territoriale. Et en fait, on va les appeler et on va leur dire « Pouvez-vous repérer, identifier avec nous les personnes qui répondent à tel critère et qui ont un déficit visuel ?» Et c'est ainsi que, par exemple, en 2024, on est à presque un millier de bénéficiaires sur les 12 derniers mois et 86% des gens qui viennent sur l'opération ont un déficit visuel non traité. C'est-à-dire qu'on est obligé de leur faire des lunettes parce qu'il y a vraiment un déficit visuel. Au-delà de ça, et ça c'est super, ils sont équipés, on repère quand même 10% de personnes qui ont des pathologies complexes, des glaucomes, des rétinopathies, des cataractes, des choses qu'il va falloir suivre sur le long cours. Et là, c'est l'occasion pour eux, un, de checker leurs droits, et deux, de rentrer dans le parcours de soins parce qu'il va y avoir des rendez-vous. Et ça, c'est génial parce que du coup, les gens rentrent dans le parcours de soins, il y a une activation de droits, il y a plein de choses qui se passent. Sur les personnes qui n'ont pas forcément de pathologie complexe, il est quand même intéressant de noter que quand on remporte une victoire sur l'inégalité de santé, quand les lunettes se posent sur le nez et qu'on voit bien, on se dit « Ouais, c'est chouette de s'occuper de sa santé, il y a moyen, c'est bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» C'est important. Et ça, c'est intéressant pour Banlieue Santé, c'est intéressant pour tous les acteurs de santé, c'est comment d'une action simple, avec une dynamique de convivialité, très importante pour nous, de la proximité, on arrive à remporter une première victoire qui va avoir des bénéfices secondaires sur la santé à plus long terme.
Merci énormément pour cette réponse. Alors, ça m'amène un peu naturellement à une autre question qui est plutôt sur les territoires. Et justement, j'aimerais savoir quelles idées ou solutions vous proposeriez pour faciliter l'accès à des professionnels de santé dans les zones les plus défavorisées. Alors, on a parlé des zones urbaines, mais aussi périurbaines ou rurales.
Alors, pour faciliter l'accès à des professionnels de santé, il faut initier chez les personnes l'envie d'aller voir des professionnels de santé. Avant même les contraintes géographiques ou d'offres de soins, il faut essayer de créer cette petite étincelle de « je veux aller mieux, je veux m'occuper de ma santé ». Donc nous, on fait beaucoup d'ateliers de socio-esthétique, à la fois en zone rurale et dans les quartiers. Cette année, on a fait 6 régions. À la suite de ça, il y a toujours un élan d'estime de soi et de volonté de prendre soin de soi. Au-delà de ça, cette action qu'on peut citer, on a aussi dans les recommandations, en fait, c'est que les gens soient accompagnés par des professionnels pour baliser les premiers pas du parcours en santé, la prise de rendez-vous, les droits, le rendez-vous Doctolib et d'être accompagné pour le faire. Encore une fois, le plus difficile dans le parcours de santé, c'est souvent le premier pas. Et c'est comment on crée toutes les conditions favorables pour créer ce premier pas, la perspective d'une victoire, la convivialité, le café, le sourire, les acteurs de proximité qui vont mettre en confiance et initier le parcours de soins.
Quels sont, d'après vous, les principaux défis auxquels les initiatives en santé font face pour répondre aux besoins des usagers ?
Sur les initiatives en santé, il est nécessaire de comprendre que les gens ont plein de problématiques urgentes à régler. Et il faut bien prendre en compte que devant la perspective d'aller faire une radio, une mammographie, un dépistage du cancer colorectal, des fois, les gens ont d'autres problèmes à régler avant. Donc, il n'y a pas forcément une adhésion, même si c'est pour leur santé. Et puis, ce qui a été aussi analysé, c'est que c'est les populations les plus fragiles. Adhérer à une campagne de prévention, par exemple, c'est prévenir la maladie que je suis là. C'est-à-dire provoquer l'arrivée d'autres problèmes. Et souvent, le meilleur rempart pour l'arrivée de problèmes, c'est le déni, c'est je ne rentre pas là-dedans parce que sinon, on va me trouver encore des problèmes. Alors, il faut tout le génie et la dentelle de la médiation en santé ou des professionnels de santé vont dire ça va aller, on va y aller ensemble, on va s'en occuper, vous inquiétez pas.
Alors, je sais qu'à Banlieue Santé, il y a un axe autour des femmes qui est assez important, notamment avec le Café des Femmes, mais pas que. Alors, j'aimerais bien savoir quelles initiatives, à votre avis, devraient être mises en place pour favoriser une meilleure santé des femmes.
Effectivement, les femmes sont très importantes pour Banlieue Santé et ça, on le voit dans ces territoires, à quel point elles sont en prise avec les réalités du quotidien et comment elles sont aussi leviers pour l'adoption de comportements favorables en santé, pour elles-mêmes d'abord, pour leurs enfants, leur entourage et même pour l'environnement social et tout le quartier. Donc, c'est pour ça qu'on propose effectivement ces formations d'ambassadrices en santé. On va former sur les déterminants de santé comme mieux manger, la pratique de l'activité physique, la santé sexuelle, le danger des écrans ou la fièvre du jeune enfant. Au-delà de ça, sur la santé des femmes, eh bien, une meilleure information, encore une fois, en santé. Et aussi peut-être à côté, je sais qu'il y a quand même quelque chose à jouer dans l'ordre de la recherche. Il y a pas mal de médicaments qui sortent et qui sont testés aussi sur les hommes. Il y a des différences entre le corps d'une femme et le corps d'un homme qui ne sont peut-être pas suffisamment prises en compte. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à jouer de ce côté-là, mais ça, c'est la partie recherche.
Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pensez que les mutuelles, elles sont assez investies dans l'éducation sur l'alimentation et la prévention santé, par exemple ?
Alors oui, dans l'alimentation et la prévention santé, on a pu construire des modules. Toutefois, la tâche est immense. Et du coup, on a bien sûr encore beaucoup de marge d'amélioration de la santé des personnes, notamment sur les sujets que vous évoquiez, dans l'éducation sur l'alimentation et la prévention. Et celle-ci ne peut pas être uniquement portée par un acteur, qu'il soit mutuel ou associatif, ou bien même institutionnel. Encore une fois, ce sont face à des inégalités de santé qui ont des origines et des causes très diverses et hétérogènes, nous devons, mutuelles, associations, professionnels de santé, habitants et habitantes, et institutions constituées des réponses collectives.
Et du coup, ça m'amène à une sous-question. Vous venez d'en parler un petit peu, mais comment est-ce que vous imagineriez que les mutuelles pourraient mieux s'investir ?
Je pense que nous avons tout intérêt à créer des espaces plus importants d'échange de pratiques. Je crois que nous sommes tous et toutes désireux de voir notre système de santé être performant, bienveillant et viable économiquement aussi. C'est une réalité, je crois que c'est quelque chose que l'on partage tous. Alors nous devrions partager encore plus fortement et surtout en ce moment des espaces où nous pensons ensemble les solutions qui vont permettre demain, en premier lieu, d'améliorer la vie et la santé des gens, que les gens ne tombent pas malades, et aussi de générer des économies en santé par une prévention peut-être plus performante, plus analytique, et qui parte aussi avec une démarche avec les gens. Et je pense que nous avons tout intérêt, et c'est peut-être le rôle des mutuelles, effectivement, de co-organiser aussi plus d'espaces d'échange et d'analyse et de proposition de solutions concertatives sur la santé de demain et le système de sécurité sociale.
La transition est quasiment parfaite, puisque en fait, moi, je me pose la question, comment pensez-vous que les usagers pourraient être davantage impliqués dans les politiques de santé ?
Beaucoup d'initiatives ont été faites et je les salue. Tout ce qui est de l'ordre du patient-expert a permis d'améliorer la prise en charge des patients sur certaines pathologies. Mais là, la question, c'est plutôt les politiques de santé, le système de santé. Et je crois qu'il est important de donner une place plus importante à ce que représente la santé pour les gens. Le dernier rapport du CESE cite et mentionne que la première préoccupation des Français, c'est la santé. Devant l'inflation, devant le contexte géopolitique, économique, politique du pays. C'est-à-dire que la santé reste la première préoccupation des Français. Alors si c'est leur première préoccupation, quels espaces avons-nous pour les traiter et les entendre ?
En échangeant avec vous auparavant par téléphone, vous m'aviez parlé de la notion de démocratie sanitaire. Comment et pourquoi ce concept vous semble essentiel pour repenser la santé aujourd'hui ?
Nous pensons à Banlieue Santé que les personnes en premier lieu peuvent être les acteurs de leur santé. C'est ce que je disais au début. Vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui était le plus efficace. Et je vous disais, rien n'est plus efficace que lorsque quelqu'un décide de se saisir de sa santé et qu'il se mette à bouger, à prendre des rendez-vous, à s'intéresser, etc. Et ici, vous me reposez la question de la démocratie sanitaire. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. C'est comment les personnes portent et co-portent avec les acteurs de la santé une vision participative de la santé, de démocratie sanitaire. On peut appeler ça de différentes manières. Mais je crois que, encore une fois, la santé est une préoccupation importante. Nous avons un point de convergence important et un attachement à notre système de santé qui transcende toutes les couches de la population. Et c'est aussi un axe de cohésion nationale, peut-être aussi quelque chose qui nous rassemble. La santé, c'est bientôt la fin d'année. On va se souhaiter à chacun bonne année, bonne santé surtout, n'est-ce pas ? Ben encore une fois, la santé.
Comment les associations, les mutuelles, elles peuvent travailler ensemble pour renforcer l'accès à la santé dans les quartiers populaires ?
Je pense qu'il y a bien sûr un prisme financier, parce que les associations portent des initiatives et peuvent être parfois limitées parce que les initiatives, ben c'est du temps RH, c'est des médiatrices, c'est des travailleurs sociaux qui vont relayer la santé au plus près et faire participer les personnes sur la santé. Je pense que nous avons intérêt à peut-être lancer de nouvelles expérimentations, ce que je disais tout à l'heure, créer des espaces d'échange et de réalisation. Plus que lancer des appels à projets, concevoir l'appel à projet ensemble peut-être, faire participer les usagers, ouvrir grand. Et encore une fois, l'idée de banlieue santé face aux inégalités de santé, plus on est efficace.
Effectivement, ça paraît évident. Selon vous, quel pourrait être le rôle des centres de santé mutualistes ou communautaires dans cette évolution, sachant qu'aujourd'hui, on avait la chance d'avoir un panel assez exhaustif d'intervenants. Peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots.
Oui, sur les rôles des centres de santé, je crois qu'il est important d'entendre notamment les aspirations des jeunes médecins qui souhaitent être salariés. C'est quelque chose qui est assez objectivé aujourd'hui. Le salariat, mais aussi la capacité à travailler en équipe, dans des équipes, pluridisciplinaires, plus particulièrement sur les territoires où il y a des facteurs économiques défavorables, chômage, manque de mobilité, facteurs économiques défavorables. On va avoir une prise en charge sociale qui peut être importante et qui peut se retrouver sur la table de consultation du médecin généraliste notamment. et de l'environner, d'environner les médecins et le premier recours de personnel, de médiatrice en santé, d'assistante sociale, permet à la fois de régler des situations complexes, d'être attractif pour les médecins, et encore une fois, d'être plus efficace et performant. Ce sont des métiers que l'on qualifie parfois de non-générateurs de revenus. Toutefois, les médiateurs en santé, les travailleurs sociaux dans les environnements santé sont éminemment générateurs d'économies en santé.
Alors c'est ma dernière question, hein, j'ai envie de vous poser une question où on se projette. Si vous deviez imaginer la mutualité de demain, quels seraient ces éléments clés pour être en phase avec les enjeux sociaux et les attentes des nouvelles générations ?
Eh bien, je pense que je ne prophétiserai pas ce que ça serait, la mutuelle. Ce que, par contre, j'ai envie de dire très sincèrement et en toute transparence, c'est que je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je sais comment on peut y arriver. Je crois qu'il faut qu'on se mette plus souvent autour de la table. Et je pense que quelques cafés, des bons repas, des discussions avec les gens, mutuelles, associations, partenaires, vont nous permettre de définir cet horizon sur lequel vous m'interrogez.
Donc, le retour des banquiers mutualistes. Alors, madame, toute dernière question cette fois-ci. J'avais dit que c'était la dernière avant, donc il y en a quand même une dernière. Celle-là, on la pose à toutes les personnes qui passent derrière nos micros. Un livre, un film, un podcast. Est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
J'ai pas préparé la question. Alors, il y a un podcast qui s'appelle Sous conditions, qui a été réalisé, qui a traité sur les inégalités sociales de santé, qui a donné la parole à des professionnels de santé, qui est très bien, Sous conditions. Et sinon, à lire et à relire sans modération le préambule de la Constitution qui dit que la nation garantit la santé à tous les citoyens.
Merci beaucoup Yacine Ndomali. J'espère que la discussion a été intéressante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants.